Bonjour à tout le monde. Excellente réunion. Vous savez, quand Dieu appelle quelqu'un à son Église, et pour l'instant, Dieu appelle seulement ce que la Bible appelle le petit troupeau, quelques-uns, mais Dieu n'étant pas injuste, il va appeler les autres plus tard, après le retour de Christ. Quand Dieu appelle quelqu'un à son Église à l'époque actuelle, c'est dans un but extraordinaire, spécial. C'est qu'il veut nous donner la vie éternelle. C'est pas peu de choses, là. Non seulement il veut nous donner la vie éternelle, ce que nous n'avons pas en tant qu'être humain physique, nous sommes mortels, il veut nous donner la vie éternelle, mais en même temps, il veut nous donner une puissance extrême, une très grande puissance qu'on ne pourrait pas arriver à imaginer maintenant en tant qu'être humain. Alors, vous allez comprendre pourquoi, à ce moment-là, au cours de notre vie physique, où l'on apprend à marcher avec Dieu, à faire sa volonté, à compter sur lui, où on apprend à lui demander son aide pour vaincre, pour voir nos fautes et tout ça, c'est pas surprenant qu'au cours de cette vie-là, Dieu nous teste. Parce que vous savez, il veut être certain que lorsqu'il va donner à quelqu'un la vie éternelle et qu'il va lui accorder des pouvoirs immenses, que jamais cette personne-là va par la suite se détourner de lui. Que jamais cette personne-là va trahir Dieu comme Satan a fait, comme l'adversaire a fait. Et il veut être certain qu'au cours de cette vie, nous apprenons actuellement à nous laisser totalement conquérir par Dieu. Ça devient le but principal de notre vie, et ce que Dieu demande, c'est ce qu'on veut faire, et on travaille pour le faire, même si on n'est pas parfait, même si c'est difficile. Il nous encourage tout au long du chemin pour être capable de le faire. Et plus il voit que nous sommes en train de le faire, plus il nous aide. Mais bien sûr, si on ralentit de le faire, bien, on voit moins bien les choses, et moins on a le goût de le faire, et moins on est capable de le faire. Ça, c'est vrai dans les deux sens. C'est pour ça que la Bible nous montre tellement qu'il faut rester proche de Dieu, et demander son aide chaque jour. Alors, Dieu permet à Satan d'agir. Il permet à Satan, dans ce sens-là, de nous tenter. Il permet que Satan nous tente. Lui qui, encore pour le moment, est en charge du monde dans lequel nous vivons, de la société autour de nous. La Bible l'indique clairement. Puis on le voit aussi par les fruits qui sont produits dans la société autour de nous. Ce qu'on voit, ce n'est pas des choses belles et agréables. On voit de la violence, on voit de la cruauté, on voit du mensonge, on voit des accusations, on voit du vol, on voit des martyrs incroyables, on voit l'abandon d'enfants, on voit les couples qui se déchirent, les gens qui s'en veulent, ces choses-là. Ça, c'est les fruits du Dieu de ce siècle. Mais nous, nous devons vaincre Satan, l'adversaire. L'adversaire de Dieu est notre adversaire. Satan veut détruire le plan de Dieu, de la même façon qu'il a voulu détruire le Christ quand le Christ est venu sur la terre en tant qu'être humain. Vous vous rappelez? Il a voulu le détruire, même à sa naissance. Il a inspiré le dirigeant romain à ce moment-là de faire tuer tous les enfants en bas âge dans la région où le Christ était né pour s'assurer que le Christ allait mourir. Mais Dieu l'a protégé. Et plus tard, Satan a tenté Christ pour essayer de le faire tomber, d'essayer de faire manquer son objectif, manquer son but. Mais nous pouvons vaincre Satan. Je ne vous apprends rien. En vous disant qu'il est extrêmement plus puissant que vous et moi, et que nous tous ensemble. Extrêmement plus puissant. Mais il n'est pas plus puissant que Dieu. Si Dieu lui permet de nous tenter, Dieu nous donne les moyens en même temps pour qu'on apprenne à lui résister par la force de Dieu. C'est ça qui se passe. Et c'est ça l'intérieur, je dirais, de notre combat, de notre cheminement chrétien pour développer le caractère de Dieu et rejeter les façons de faire de Satan. Par la puissance de Dieu seulement, nous pouvons vaincre Satan, l'adversaire. Alors, le titre du message aujourd'hui, « Comment vaincre l'adversaire? » Comment vaincre l'adversaire? Allez à Ésaïe. Ésaïe, chapitre 14. Ésaïe, chapitre 14, parle très bien de Satan et décrit un peu sa nature, ce qu'il a fait dans le passé, quel genre d'être il est et comment il voit les choses et quel est son travail. Qu'est-ce qu'il fait? Ésaïe 14 et le verset 12. Ici, Dieu a inspiré son prophète Ésaïe d'écrire ceci en parlant de Satan, l'adversaire. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. » Et on sait par d'autres passages bibliques qu'à un moment donné, Satan s'en est pris à Dieu et est monté au trône de l'univers pour essayer de remplacer Dieu, pour éliminer Dieu et prendre sa place. Alors, c'est cet événement-là ici que Dieu décrit par la bouche d'Ésaïe. Il décrit le moment où Satan a été rejeté de la salle du trône dans les cieux. « Te voilà tombé du ciel. » Et regardez comment il l'appelle. « Astre brillant, fils de l'aurore. » Et ce n'est pas surprenant qu'il appelle Satan un astre et un astre brillant. Parce que le nom de Satan avant, vous savez, c'était Lucifer. Et Lucifer, le sens du mot, ça veut dire « porteur de lumière ». Il était porteur de lumière. Alors ici, il dit « Te voilà tombé du ciel. »« Astre brillant, fils de l'aurore. » Et il lui donne le nom de « astre » ou « d'étoile », si vous voulez. De la même façon que symboliquement, Dieu parle des anges comme étant les étoiles du matin. Vous pourrez aller voir dans Job 38, verset 7. Job 38, verset 7. Quand Dieu dit à Job, « Où est-ce que tu étais quand j'ai bâti la terre? Quand j'ai fait ces belles choses et que les étoiles du matin, les anges, éclataient en chants d'allégresse. » Donc, c'était des êtres spirituels qui existaient déjà à ce moment-là et qui étaient en éblouissement devant la beauté de ce que Dieu venait de créer, l'univers physique. Alors, il parle d'eux autres comme étant des étoiles. Alors ici, il parle de Satan comme étant un astre brillant, comme étant une étoile. C'est un langage symbolique. Verset un peu plus loin, il dit, « Tu es abattu à terre, la fin du verset 12, toi le vainqueur des nations. » Et le vainqueur des nations, ça veut dire, dans le sens original hébreu, toi qui affaiblis les nations. Et si vous remarquez, dans l'Église, nous, on doit faire attention pour que Satan et ses démons ne nous affaiblissent pas dans notre démarche et ne nous affaiblissent pas au point d'un moment donné nous éloigner de Dieu et même de nous en détourner. Parce qu'il affaiblit les nations à travers toutes sortes de subterfuges, de faussetés, de vérités tordues pour les amener à penser que ce qu'ils font est vrai, que ce qu'ils font est juste, que ce qu'ils font est correct. Alors, toi, le vainqueur des nations. Et là, il décrit quel genre de personnage Satan est. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Donc, je serai plus important que les autres anges. Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité du septentrion. Ça, c'est le trône de Dieu. Il dit, je vais m'asseoir sur le trône de Dieu. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut, dans le sens que je serai comme le Très-Haut. Je serai le Très-Haut. Donc, il voulait remplacer Dieu, prendre sa place. Alors, ce que ça nous dit, ça, sur la nature de Satan, c'est qu'au point de départ, c'est un être qui s'est laissé vaincre par l'orgueil, par sa beauté, par son intelligence, par sa splendeur, par le rôle important qu'il avait à jouer. Et ça, ça lui est monté à la tête, pour ainsi dire. Et il en est devenu orgueilleux, au point qu'il voulait remplacer celui qui l'avait créé. Il est devenu fou. La Bible dit que le péché, c'est une folie aussi. Satan est devenu fou en s'imaginant une chose semblable, pouvoir détrôner celui qui lui avait donné l'existence. Alors, on voit par ça que la nature de Satan, c'est d'abord l'orgueil. C'est ensuite la jalousie. Je vais prendre sa place. Je vais prendre la place de l'autre. Je vais occuper tel poste. C'est aussi un esprit de compétition. Hein? Je vais être meilleur que les autres. Je vais être au-dessus de tous les autres anges. Je vais être le principal. Je vais être le premier. Et c'est un esprit de convoitise. Je veux ce que je veux quand je le veux. C'est un peu les slogans qu'on retrouve dans la publicité moderne, à la télévision, dans les journaux. Hein? Permettez-vous maintenant telle chose. Même si vous n'avez pas les moyens, vous le valez bien. Alors, c'est un peu le même genre de raisonnement. Ça n'a pas changé. C'est une vieille recette que Satan utilise. Et c'est ça qu'on voit de plus en plus dans son monde, dans le monde de Satan, qui est autour de nous. On voit l'orgueil, on voit la jalousie, la compétition, la convoitise. Et même dans un même parti politique, il y a des élections en cours dans différents partis, dans différents pays. Et vous voyez les candidats d'un même parti qui sont supposés d'avoir le même but, qui sont supposés d'avoir à cœur les mêmes intérêts des gens, sont supposés d'avoir à cœur de travailler ensemble. Vous les voyez sur la place publique dans leur concours pour être élus à la tête de leur parti à eux pour détrôner le président. Vous les voyez s'entre-déchirer, s'accuser, mentir de toutes les façons imaginables, salir le plus possible les autres. Ça, c'est le travail de Satan. Ça représente exactement Satan. Quand vous voyez quelqu'un agir de cette façon-là, vous savez de quel esprit cette personne-là, malheureusement, elle est animée. Alors, Satan s'applique à nous transmettre sa nature. C'est sa nature. Et il s'applique à nous la transmettre, à la développer en nous. Alors que nous, c'est le contraire que nous devons faire. Dieu nous a montré qu'il voulait voir être développé en nous sa nature à lui. Revêtir le Christ, penser comme le Christ, agir comme le Christ, respecter les lois de Dieu et la volonté de notre Père comme le Christ a fait, marcher dans ses traces et aller de gloire en gloire comme la Bible mentionne. Alors ça, c'est notre rôle, de développer la nature de Dieu. Il faut se rappeler que Lucifer était un des trois chérubins qui était au trône de Dieu. Vous vous rappelez, vous connaissez les textes. Il y avait Michael, Gabriel et Lucifer, les trois super-archanges en charge et qui étaient au trône de Dieu. Maintenant, je ne dis pas ça pour sans but. C'est qu'il faut réaliser que cet être-là, qui était avant Lucifer et qui est devenu Satan, qui veut dire adversaire, qu'il a séduit un tiers des anges. On ne sait pas comment ça représente d'individus, quel nombre. Des millions sûrement, peut-être des milliards d'anges, c'est pas indiqué nulle part. Mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'êtres spirituels. Satan les a séduits. Apocalypse 12, on peut regarder ça en passant. Apocalypse chapitre 12 et le verset 3 et 4. Un autre signe parut dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge feu. Et vous savez, Satan est appelé le grand dragon, le serpent ancien. C'est d'autres noms qu'on lui donne dans la Bible. Ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses 7 têtes, 7 diadèmes. Et regardez, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, donc le tiers des anges qui étaient sous sa gouverne. Il les a entraînés et les jetait sur la terre. Alors, ça nous montre que cet être spirituel puissant, qui occupait une fonction au plus haut niveau de la hiérarchie du gouvernement de Dieu dans le passé, s'est détourné de Dieu et il a amené avec lui tous les anges qui étaient sous sa charge. Tous les anges, pas la moitié, pas un dixième. Tous les anges qui étaient sous sa charge. Ça, ça veut dire une chose. Il est drôlement puissant. Il est drôlement puissant. Et il est capable de mêler les cartes. Et il est capable de faire croire ce qu'il veut à qui il veut. Si la personne n'est pas proche de Dieu et si la personne ne demande pas l'aide de Dieu pour la protéger. Pour voir les choses comme Dieu les voit et non pas comme lui les voit, Satan. Il est puissant. Et je vais vous montrer à quel point il est puissant. Allez à Apocalypse 20, juste un peu plus loin. Vous savez, bientôt le Christ va revenir. Il va établir son règne de 1000 ans sur la terre. Et là, on va développer avec lui, nous qui allons être là, si nous sommes fidèles jusqu'à la fin, on va développer un monde tout à fait différent de celui que nous connaissons maintenant. Un monde où il y aura de la paix, de l'harmonie, des familles heureuses, des gens qui possèdent des biens, des gens qui ont le temps de vivre et non pas qui courent après leur souffle comme on voit maintenant. Une belle société. Et ça va être un monde inimaginablement beau, paisible, serein, abondant. Bon, mais on sait qu'à la fin du millénium, Satan doit être relâché pour un peu de temps. Encore là, avec la permission de Dieu. À la fin du millénium, Satan est relâché pour une toute petite période. Il est encore aussi puissant qu'avant, quand il a séduit des millions ou des milliards d'anges qui étaient sous sa gouverne, et après avoir séduit, à notre époque, l'ensemble de l'humanité, parce que la Bible dit que la terre entière est séduite par Satan, de toutes sortes de façons. Alors, à ce moment-là, après le millénium, quand il sera relâché pour un peu de temps, il va agir et il va séduire des millions de personnes, très rapidement. Et il va les amener à se détourner de Dieu, malgré la splendeur du monde qu'il y aura à ce moment-là, de la beauté de la société qu'il y aura. Et vous savez, c'est un danger lorsque, quand les choses vont très bien, hein? Quand on n'a pas de problème, qu'on n'a pas de difficulté, qu'on est dans l'abondance et que les choses sont, vont comme de soi, là. On voit pas de problème. Tout est beau, tout est bon. Et parfois, dans ces circonstances-là, en tant qu'être humain, on se permet des choses. On se permet de commencer à choisir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui ne l'est pas, et ainsi de suite. Je vous donne juste un résumé de ce qui pourra arriver. Il pourra arriver beaucoup d'autres choses que ça, mais dans une période très courte de temps, à la fin du millénium, Satan va détourner des millions d'êtres humains malgré la beauté de ce monde à venir qui aura été établi. Et il va faire en sorte que des millions de personnes qui auront été, dans un court laps de temps, séduites, vont attaquer Jérusalem et vont attaquer le Christ lui-même à Jérusalem, après le millénium. C'est pas peu vous dire, là. Ça semble impossible. Non, c'est possible. C'est écrit. Ça va exactement se produire comme ça. Regardez Apocalypse 20, fin du verset 3. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Après les 1000 ans où il est emprisonné, comme c'est marqué au début du chapitre. Et vous allez au verset 7 à 9 après ça. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison où il était depuis 1000 ans. Et il sortira pour séduire les nations. Il recommence son travail de tromperie, de séduction. Pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de quoi? De les rassembler pour la guerre, dans un monde de paix merveilleuse depuis 1000 ans. Il va leur vendre l'idée que ça va être bon de faire la guerre, alors que les gens auront profité de la paix pendant 1000 ans. Afin de les rassembler pour la guerre, leur nombre était comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints, la ville bien-aimée, Jérusalem. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et à ce moment-là, Dieu va intervenir et ça va être la dernière attaque de Satan et d'être humain quelconque contre son gouvernement. Vous savez, c'est pas pour rien que dans 2 Corinthiens 4, verset 4, 2 Corinthiens 4, verset 4, il est clairement dit par l'apôtre Paul que Satan est le Dieu de ce siècle. Dieu avec un petit D. Dans le sens qu'il est le dirigeant de ce monde. Il est celui qui est en arrière-scène dans cette société. Et c'est pour ça que tout va comme les choses vont. C'est celui qui règne dans ce monde et qui transmet à ce monde actuel ses soi-disant valeurs, ce que lui voit, ce qu'il est. Sa haine, son amertume, ses accusations et tout ce que vous voulez. Éphésiens 2. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. On va lire à partir du verset 1. Éphésiens 2 et le verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Ça, c'est moi, c'est vous, avant que nous soyons baptisés. Parce qu'on était sous la mante de la mort, tant qu'on n'a pas été lavé de nos fautes, en acceptant le sacrifice de Christ, après nous être repentis et avoir demandé pardon. Dans lequel vous marchiez autrefois, mais oui, avant que Dieu nous appelle, selon le train de ce monde, de cette société, ses façons de faire, selon qui? Le prince de la puissance de l'air. Il y a un prince dans ce monde qui est en fait le petit Dieu de ce siècle, le prince de la puissance de l'air, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et tous les êtres humains sont au point de départ des fils de la rébellion. Vous étiez comme ça, j'étais comme ça. Et parfois, on a encore cette tendance-là, il faut faire attention, ça fait partie de notre combat. Mais il dit, vous étiez dans ce groupe-là, vous aussi, on n'a pas de mérite. Dieu a été d'abord miséricordieux envers vous puis envers moi, parce qu'il nous a appelés maintenant. Mais il a mis sur nos épaules des responsabilités plus grandes, encore aussi. Mais on voit par ça que ce fils de... Ce prince de la puissance de l'air, il diffuse 24 sur 24, 7 jours sur 7. Il diffuse ses attitudes d'orgueil, de convoitise, d'amertume, de rébellion, d'accusation, de conflit. Tout ce qui est dans cette famille d'attitudes-là, il le diffuse 7 jours sur 7 et 24 heures par jour. Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, c'est ce que je viens de vous dire, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Hein, n'est-ce pas? On faisait ce qui nous faisait plaisir. Hein? Et même si ce n'était pas toujours légal, quand ça nous faisait plaisir, que ça faisait notre affaire, c'est ce qu'on faisait. Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Ça veut dire qu'on suivait selon ce que nous, on pensait. Mais d'où ça venait, nos pensées? Du prince de la puissance de l'air, qui diffuse 24 sur 24, 7 sur 7. C'est lui qui nous envoie des pensées. mauvaise. Et nous étions par nature, par la nature humaine, influencés par Satan, des enfants de colère comme les autres. Alors, les êtres humains sous l'influence de Satan, c'est évident, et c'est ce que nous faisions avant, veulent faire ce qu'ils veulent faire. Ils ne veulent pas se faire dire quoi faire. Les êtres humains n'aiment pas avoir quelqu'un au-dessus d'eux qui leur montre le chemin. Ils veulent suivre, même sans le savoir, les influences de Satan et de ses démons. Parce que le fondement de ça, c'est l'influence de Satan et de ses démons. Mais les gens ne le réalisent pas toujours. Ils pensent que c'est eux autres qui ont eu l'idée. C'est eux autres qui ont raison de faire les choses de cette façon-là. C'est eux autres qui ont raison d'accuser ainsi. Ou c'est eux autres qui ont raison de penser telle affaire. Ils ne s'imaginent pas que ça peut venir de l'adversaire qui cherche à brouiller les cartes et à semer la confusion et à semer l'amertume et l'esprit de convoitise ou d'orgueil ou de rébellion, si vous voulez. C'est intéressant parce que M. Meredith, dans un récent sermon, a parlé du fait que de plus en plus, on voit la manifestation de démons, ce qu'on voyait moins il y a quelques années. On le voit plus, et de la manière que M. Meredith nous explique, nous allons le voir plus bientôt. Ça va s'accentuer vers la fin. Vous allez voir, c'est d'ailleurs clairement expliqué dans la Bible. Et je vais vous donner un petit peu ce que M. Meredith a mentionné dans un sermon assez récent qu'il vient de prononcer en Caroline du Nord, à Charlotte. Et je me suis inspiré beaucoup de son sermon pour préparer le message que je vous donne aujourd'hui parce que j'ai trouvé que c'était une viande importante, quelque chose de profond et solide que nous devions avoir à ce moment-ci. Alors, M. Meredith dit que de plus en plus, donc, on voit des manifestations de démons autour de nous et dans l'Église aussi, parfois. La fille de M. Meredith, qui est mariée avec un pasteur, et elle vit maintenant en Angleterre avec son mari, avec un ministre de l'Église, et elle a écrit à son père pour dire que son mari a observé, dernièrement, de plus en plus de problèmes reliés à des démons, ce qu'on voyait moins auparavant. Et M. Meredith a dit, en plus de ça, il y a deux ou trois ministres qui viennent de me mentionner le même phénomène qu'ils ont observé dans leurs églises et dans leur région. Alors, il se passe des choses. Et ça, c'est important que nous le sachions, pour être capable d'identifier ce qui se passe et de prendre les bonnes décisions et d'avoir la bonne approche. Vous savez, le même phénomène, c'est que il y a des gens, à un moment donné, qui deviennent très irrités de façon inhabituelle ou inexplicable. Des gens qui deviennent très irrités, vexés, accusateurs, de façon inhabituelle ou inexplicable. Ce que je vous donne là, je l'ai préparé il y a quelque temps, là. Je ne l'ai pas préparé ce matin. Je vous dis ça en passant, là. C'est dans mes notes, là. C'était écrit d'avance. Alors, M. Meredith dit, il y a des ministres qui lui ont rapporté qu'il y a des gens qui deviennent irrités de façon irrationnelle, qui deviennent vexés, qui deviennent dérangés. Des gens qui sont influencés personnellement par des démons qui s'en prennent à eux. C'est un phénomène qu'on ne connaissait pas vraiment dans le passé, mais c'est bon qu'on en soit conscient, qu'on puisse savoir ce qui se passe, qu'on puisse comprendre ce qui arrive parfois dans certaines circonstances. Allez à Apocalypse 12. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse, chapitre 12. Vous savez, nous entrons actuellement dans une période où il y aura une autre guerre spirituelle au trône de Dieu, comme celle qu'on a vue dans Ésaïe 14 tantôt, quand Satan est monté au trône de Dieu pour essayer de s'emparer du trône de Dieu. Et ça doit se reproduire une autre fois. C'est marqué dans la Bible. Et quand ça va se reproduire, il va y avoir des manifestations encore plus puissantes des esprits démoniaques et de Satan lui-même sur la terre. Mais on dirait qu'un peu avant ça aussi, ça commence certaines manifestations de ça allant dans le même sens. Apocalypse 12, versets 7 à 9. « Il y eut guerre dans le ciel. » Michel ou Michael et ses anges combattirent contre le dragon, c'est-à-dire Satan, le serpent ancien, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'accès leur sera devenu interdit à la salle du trône. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et ça, c'est une période de trouble sans précédent qui n'est pas loin devant nous, alors que ces esprits mauvais-là vont se manifester de façon effroyable. Et ce qu'on a vu au cours de la Deuxième Guerre mondiale dans les camps de concentration et dans les guerres entre les nations, ce sera très peu à côté de ce qui vient. Parce qu'ils vont se déchaîner de façon extrême, parce que c'est leur dernière chance avant le millénium. Et regardez la fin du verset 12. « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Et le peu de temps qu'il aura à ce moment-là, c'est les dernières 3 années et demie avant le retour du Christ. Alors, Satan va montrer au trône de Dieu. Il va être repoussé avec violence. Il va être rejeté sur la terre. Et là, il y aura une grande colère, comme on vient de voir, parce qu'il sait qu'il y a peu de temps. Alors, il va mettre le paquet, pour ainsi dire. Il va provoquer des problèmes de toutes sortes qu'on n'aura peut-être jamais vus. Et on aura besoin d'être fort à ce moment-là. Et Dieu permet peut-être qu'on passe par certaines petites expériences à bas échelle maintenant pour nous permettre de traverser les tests plus grands qui s'en viennent de ce côté-là lorsqu'on aura à faire face à des esprits qui seront rendus au temps de la fin et qui vont manifester leur pleine colère et qui vont être plus nombreux et plus actifs parce qu'on sera rendu à la fin. Alors, il va provoquer des problèmes de toutes sortes. Il va causer des divisions. Il a déjà commencé. Il va causer des conflits. Il va essayer de mêler les cartes, répandre des accusations. Il va pousser les dictateurs du monde à attaquer les nations modernes d'Israël. Ça, c'est la fin de tout. Pour que les nations modernes d'Israël soient amenées en captivité, soient détruites et que leur pays soit resté dévasté. Il faut le comprendre. Ça s'en vient. Et parce que ça s'en vient, on dirait qu'il y a une certaine manifestation de ça qu'on peut voir parfois. Mais encore là, il faut savoir que Dieu le permet. Et si Dieu le permet, Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais ces forces-là, il faut les avoir. Et pour avoir ces forces-là, il faut être proche de Dieu. Si on est proche de Dieu, il va nous les donner. Et il va faire en sorte que les choses vont se classer comme elles doivent se classer. Il va nous protéger, il va nous donner la force. Mais il faut avoir à cœur de rester proche de lui entre-temps, même si nous ne sommes pas parfaits. Dieu est prêt à nous pardonner chaque jour, en autant qu'on se repent vraiment et qu'on travaille à changer. Et comme j'ai déjà mentionné, même la veille du jour où le Christ va mettre ses pieds sur le mont des Oliviers, nous aurons encore à nous mettre à genoux et à demander pardon pour les erreurs qu'on aura faites la veille. Mais si on est en train de s'en aller vers la perfection, il va nous rendre parfaits, selon sa promesse, comme il dit. Le jour où le Christ va revenir. Maintenant, on va voir ensemble quelques clés ou quelques moyens pour vaincre l'adversaire. Et c'est important qu'on connaisse ces clés-là, ces moyens-là, pour mener le combat de bonne façon puis réussir. Premier moyen, être conscient de ce que Satan est et de ce qu'il fait. Être conscient de qui est Satan, de ce qu'il est et de ce qu'il fait. Vous savez, c'est fort la façon dont Satan s'est pris pour séduire l'humanité entière. C'est écrit que l'humanité entière est séduite par lui. Mais l'humanité entière, si vous y pensez, ils ne croient même pas au diable. Ils ne croient pas que Satan existe. Ils vont dire, bon, c'est une légende, c'est un mythe, c'est pas vrai. Mais c'est une des armes, je dirais, les plus efficaces de Satan, de faire croire qu'il n'existe pas, alors qu'il est encore aussi puissant qu'avant et qu'il travaille en arrière-scène et qu'il diffuse dans la pensée des gens, dans les émotions des gens, qu'il arrange les situations ou les circonstances pour faire chuter les gens, parce qu'il veut détruire l'humanité, et principalement l'Église de Dieu. Et vers la fin, c'est surtout sur l'Église de Dieu que sa colère va porter. Et on sait qu'après que l'Église fidèle sera emmenée en un lieu de sécurité, Satan va se détourner et frapper de plein fouet ceux qui vont encore appartenir à Dieu, mais qui n'auront pas été fidèles, qui n'auront pas été honnêtes, qui n'auront pas eu leur cœur totalement avec Dieu, assez pour être amenés à un lieu de protection. Ce sera le dernier test pour eux. Alors, Satan tord la vérité. C'est puissant. Satan tord la vérité. Et vous savez, il présente le mal comme étant bon. Il présente le mal comme étant quelque chose de bien. La Bible dit d'ailleurs qu'un jour allait venir où les gens allaient appeler le mal bien et allaient appeler le bien mal. On est à cette époque. Je vais vous donner quelques exemples, vous allez voir, et vous pourriez m'en donner vous aussi. Satan montre le péché, montre le mal, montre la transgression, non pas comme une transgression ou comme un mal, mais comme étant agréable. Comme étant agréable. Comme étant cool. Comme étant in. Comme étant à la mode. Comme étant souhaitable, bon. Et on voit ça dans les films, on voit ça à la télévision, à peu près partout, dans les revues. On présente, par exemple, l'adultère et la fornication comme quelque chose de tout à fait normal. Tout le monde le fait. Si vous ne pensez pas comme ça, vous n'êtes pas tout à fait normal. Ça va jusque-là, le raisonnement qu'on nous présente dans ces publicités. Nous ne sommes pas normaux si nous rejetons la fornication, c'est-à-dire avoir des relations sexuelles avant d'être mariés, ou si on rejette l'adultère, si on rejette le fait qu'on ne veut pas avoir des relations en dehors de notre conjoint ou de notre conjointe dans le mariage. On passe pour vieux jeu, on passe pour gens qui ne sont pas de leur temps, qui n'ont pas compris. Il y a une chose, on a compris que c'était la voie du bonheur, par exemple, de la paix, de la sérénité, puis d'une famille heureuse, et non pas d'enfants abandonnés et de gens séparés, appauvris par ce genre de situation-là, et ainsi de suite. Ça, Dieu nous a donné de le comprendre, et c'est toute qu'une bénédiction. Mais Satan nous montre que ça, l'adultère et la fornication, c'est agréable, c'est normal. C'est excitant, c'est souhaitable, c'est à la mode. C'est une façon de vivre moderne, et même on va employer le mot « libéré ». Ceux qui le font sont des gens libérés, comme si les autres étaient esclaves. Mais ceux qui sont libérés et qui pratiquent ça, à un moment donné, retrouvent des chaînes en cours de route. Et là, ils sont esclaves des conséquences des transgressions des lois. Les vraies conséquences sont là, et il y a un prix à payer. Parce que Satan, lui, dans ses films, à la télévision, ou dans les journaux, ou quoi que ce soit, dans toute la publicité qu'on fait autour de ça, ne montre absolument pas les conséquences de ces transgressions aux lois de Dieu, de la fornication, puis de l'adultère. Il ne montre pas, par exemple, qu'après que les jeunes filles sont enceintes, dans les collèges ou par après, que plusieurs vont chercher à régler le problème en avortant, en se faisant avorter. Ça, Satan ne le montre pas. Puis il ne montre pas la détresse de ces jeunes filles-là, leur souffrance en même temps de perdre leur enfant aussi, ou de ne pas être capable de le garder. Et la souffrance et la culpabilité qu'ils gardent année, après avoir permis de tuer le bébé qu'elles avaient dans elles. Ça reste là. Il y avait quelqu'un dans elles qui n'est plus là parce qu'elle a pris la décision de le faire abattre. Appelons les choses par leur nom. Ça, c'est une des conséquences. Mais ça, la publicité ne le montre pas. Les films ne le montrent pas. On montre toujours le beau côté, l'excitant d'aller vers quelqu'un qui n'est pas notre conjoint ou de forniquer à gauche et à droite avant de se marier ou de courir n'importe où et de faire n'importe quoi. Satan ne montre pas les conséquences. Il ne montre pas non plus les petits-enfants qui naissent de ces situations-là parfois lorsqu'il n'y a pas d'avortement et qui n'ont pas de père. Parce que la plupart du temps, les hommes, dans leur courage, ont fui leurs responsabilités et n'ont pas pris la charge de la petite maman et de l'enfant, et ont laissé la petite maman toute seule. Et souvent, la petite maman n'a pas fini ses études, et elle doit prendre charge d'un bébé, elle doit l'élever seule, et elle se retrouve dans une situation financière précaire, où elle ne peut pas souvent donner à l'enfant ce qu'il aurait besoin, et où l'enfant manque d'un père, parce qu'il n'aura jamais son père. Et il va le chercher, son père. J'ai vu des cas en masse, en grande quantité, où ces enfants-là cherchaient à reconnaître leur père. Et on a dans nous le désir de connaître nos parents puis nos ancêtres. On ne peut pas l'enlever. Ils ont beau faire croire que ça cause pas de problème, ça cause problème. Et l'enfant qui n'a pas connu son père veut le connaître. Il essaie de le connaître. Alors ça, Satan ne montre pas les conséquences de la transgression des lois de Dieu. Ces enfants élevés par une mère seule sans père. Satan ne montre pas non plus dans le même film, là, alors qu'il y a eu multiplication de relations sexuelles avec tout le monde, et parfois de même sexe, Satan ne montre pas les maladies transmises sexuellement qui en découlent. On ne montre pas l'après, voyez-vous, après le film, là, qu'est-ce qui arrive dans la vie de ces gens-là, dont certaines ont le sida et souffrent le restant de leur vie, et parfois leur vie est écourtée, ainsi que les autres maladies. Il ne montre pas ça. Satan montre ce qui est insensé comme étant bon. Quand on regarde dans l'ensemble la façon de travailler de Satan, puis ce qu'il y a dans notre société, on comprend plus qu'est-ce qu'il fait, puis comment il fait, comment il diffuse sa propre façon de voir les choses, et comment il amène les gens à souffrir, puis à être malheureux. Parce que son but à lui, c'est pas que l'humanité soit heureuse, là. C'est de la détruire. La Bible dit bien, c'est un menteur, et c'est un tueur, c'est un meurtrier depuis le début. C'est ça que la Bible dit. Qu'est-ce qu'il veut, c'est de détruire l'humanité. Parce que Dieu a le plan, lui, de se reproduire à travers l'humanité. Alors, Satan veut empêcher ce plan-là de se réaliser. Alors, il montre ce qui est insensé comme étant bon. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est rendu, par exemple, avec une musique dans le monde qui est sans harmonie, sans mélodie, qui est comme un ensemble de bruits fracassants de plus en plus extrêmes et de plus en plus barbares. Et quand on parle de chant, on ne devrait même pas employer le mot « chant », je ne voudrais pas mal utiliser ce mot-là, ce ne sont pas des chants. Quand vous regardez les mots, c'est à faire dresser les cheveux sur la tête. La tête, comment c'est violent, comment c'est méchant, comment c'est méprisable souvent dans plusieurs chants, entre guillemets, qui sont chantés sur ces musiques-là. Et ce sont des cris, M. Meredith disait ceci, ce sont des cris comme des cris de démons sortis de l'abîme. Et si vous a donné en essayant de syntoniser une station pour les nouvelles, parfois on tombe sur d'autres stations, que ce genre de musique-là, c'est des cris effroyables. C'est des cris comme des cris de démons. Et les gens aiment ça. Les gens aiment ça. Et on associe à ça, comme pour que ça aille mieux, comme pour que les gens soient plus détendus, plus heureux, on associe à ça la drogue. Alors, ça aussi, c'est répandu le plus possible. Et on en connaît les conséquences. Mais ça, on ne montre pas les conséquences. On dit, on va essayer de la légaliser, par exemple. Vu qu'on ne peut pas l'empêcher, on va la légaliser. Ça, c'est les façons humaines de faire les choses. On va fournir les seringues à ceux qui s'injectent des drogues fortes. On n'arrêtera pas ça, on va lui fournir les seringues. Ça, c'est les façons humaines de faire les choses. Mais ça mène au même résultat. Exactement. Et on va faire de la publicité, et on va présenter les choses de telle façon, par exemple, que la boisson, c'est quelque chose de souhaitable à l'excès. Ceux qui boivent à l'excès sont cool. Eux autres, ils savent faire le party. Alors, on ne montre pas, par exemple, les vomissures après. On ne montre pas les blessures après. On ne parle pas des accidents de la route où des familles sont décimées parce que quelqu'un a pris le volant en étant ivre. Ça, c'est les conséquences. Ça, je vous dis, Satan montre comme le beau côté. Allez, chin-chin, tant qu'on peut rester debout. Mais après... Et après, il y a les cirrhoses du foie. Et après, il y a les familles brisées. Et après, il y a les adultères. Parce que quand les gens ont pris un verre de trop, même deux et trois verres de trop, on fait n'importe quoi, n'importe où, avec n'importe qui. Alors, on brise les familles et ainsi de suite. Ça, c'est les belles conséquences de la belle façon de Satan de présenter les choses. En disant, il n'y a pas rien de grave là-dedans. C'est moderne. C'est libéré de faire ces choses-là. C'est pas libéré des conséquences. Ce n'est pas selon Dieu. Mais je vous dis... Je vous décris cette situation-là pour que vous réalisiez que Satan est réel. Et que quand la Bible dit qu'il diffuse 24 heures sur 24, qu'il est là en arrière, qu'il est le prince de la puissance de l'air, qu'il est le Dieu de ce siècle, il n'est pas en vacances. Il n'est jamais en vacances. Il faut en être conscient aussi. Il est réel. Et il y a une façon puissamment subtile de faire croire que le péché est intéressant. Et c'est vrai, il est intéressant au point de départ. C'est attirant. Mais si on se laisse attirer par le point de départ, on a tout ce qu'il y a après. Ça vient avec, c'est un package deal. C'est un ensemble. Et de toute façon, même au point de départ, si on se laisse attirer par ce qui est attirant dans le péché, on est déjà en train de pécher. Si on garde dans notre esprit des désirs qui sont contraires aux lois de Dieu, on est en train de s'en aller dans cette direction-là. Et Christ dit, écoutez, si vous pensez à une femme... que vous n'avez pas le droit d'avoir, qui n'est pas votre épouse, comme pour avoir des relations avec elle, et que vous la voyez dans des situations que vous ne devez pas envisager, vous avez déjà commis l'adultère, même si vous n'avez pas couché avec elle physiquement. Tout se passe à l'intérieur, c'est là que notre combat est. Alors, Satan a une façon puissamment subtile de faire croire que le péché est intéressant et sans conséquence. Genèse 3, et c'est de même depuis le début de l'humanité. Genèse chapitre 3. Genèse 3, verset 1. Le serpent, le dragon qu'on a vu tantôt, était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Rusé. Quand je vous dis le subtil, ratoureux, il y a la façon exacte de présenter les choses pour tromper les gens, pour leur faire croire que c'est bien alors que c'est mal. Il a dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous mouriez. » Et regardez le verset 4. Dieu leur avait dit, « Vous ne touchez pas à cet arbre-là. » Ça, c'était le fait de choisir par eux-mêmes ce qui était vrai, ce qui était faux, ce qui était bon, ce qui était mauvais. Dieu dit, « C'est moi qui vous dis quoi faire, comment faire pour vivre heureux. » Alors, regardez verset 4. « Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Je reviens au début du verset 4. « Le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Qu'est-ce que Dieu avait dit? « Vous mourrez. » Qu'est-ce que Satan a fait? Il a menti. Tout de suite. Il a menti tout de suite. On lance un mensonge, puis après ça, on dit « Arrangez-vous avec le reste. Arrangez-vous avec le reste. Débrouillez-vous pour démêler les choses. » C'est ça. Et c'est ça la méthode de Satan. Il a dit, Dieu, là, qui vous a créé, là, puis qui a fait ce beau jardin-là, là, il vous ment. Il vous cache des choses. Il vous empêche de réaliser votre vie pleinement. Soyez vous-même. Goûtez à l'existence. Faites ce que vous avez envie de faire. Faites ce que bon vous semble. Vous avez un esprit, vous êtes libre. Faites-le. Est-ce que c'est pas la philosophie qu'on voit partout autour de nous? Il n'a pas changé sa recette. Et il n'a pas changé sa façon de faire. Absolument pas. Par les médias, Satan fait voir, par exemple, que la vanité et l'égoïsme, c'est de la sagesse. Ben oui, la vanité puis de l'égoïsme, c'est de la sagesse. Et il pousse les gens à se voir comme importants. Vous êtes quelqu'un, vous méritez bien ça. Vous n'avez pas le moyen de vous acheter cette voiture-là, achetez-la quand même, à crédit. Vous le valez bien, vous le méritez. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il gonfle le... La personne, l'orgueil de la personne, ayez quelque chose d'aussi beau que votre voisin, sinon plus beau que votre voisin. Et là, vous allez avoir un standing auprès des autres autour de vous, même si vous n'avez pas le moyen. Alors, les chaînes que la personne va se chercher à ce moment-là, elles sont multiples. Il se pense important, donc il est en dehors de la coche complètement, et il va chercher une dette qu'il ne pourra pas éventuellement affronter s'il n'y a pas les moyens de faire. Et après, ça va amener d'autres dérapages. Soyez vous-même. Faites ce qui vous semble bon. Que personne ne vous dise quoi faire. Vous êtes assez grand. Que personne ne vous dise quoi faire. Il n'y aura jamais un jour, je pense, où il n'y a personne qui me dira quoi faire. Parce qu'il y a un Dieu dans le ciel, j'ai un grand frère, qui eux autres me disent quoi faire et qui ont encore tellement de choses à m'apprendre. Parce que j'en ai encore tellement à apprendre. J'en ai encore tellement à changer. Et je leur remercie d'être patient envers moi comme il est patient envers moi, comme ils sont patients envers moi. Et je doute que ce soit la même chose envers vous autres aussi. Satan est réel. Vous savez, Satan séduit. Satan fait voir, par exemple, le meurtre comme un droit. Pensez-y. Il présente ça d'une façon positive. Le meurtre est un droit. Une dame enceinte qui ne désire pas avoir d'enfant peut faire tuer son enfant. C'est un droit qu'elle a. Le droit à sa vie. Le droit à ne pas être mère si elle veut. Mais à ce moment-là, elle est meurtrière, elle est assassine. C'est ce que ça veut dire. Parce que la Bible dit clairement, tu ne tueras point. Ça, c'est entre les mains de Dieu. Il n'y a pas un être humain, ni aucun tribunal humain qui peut, malgré tous les beaux raisonnements philosophiques qu'on peut sortir, qui peut aller à l'encontre d'une loi aussi simple. Tu ne tueras point. Tu ne prendras point la vie d'un autre être humain, quelles que soient les circonstances. Mais Satan le présente actuellement comme étant un droit. Même chose que l'euthanasie. Il y a des débats sur l'euthanasie actuellement. Pour que les gens qui sont en phase terminale et qui souffrent, qu'on les tue, dans le fond, qu'on leur donne une injection et qu'ils meurent. Mais on n'a pas le droit de tuer personne. C'est Dieu qui est seul en charge de la vie, de la donner et de la reprendre. C'est entre ses mains. Mais qu'est-ce qu'on fait croire? Et regardez, le raisonnement est subtilement puissant. On dit, permettez à ces gens-là de mourir dans la dignité. Permettez à ces gens-là de mourir dans la dignité. C'est un raisonnement subtilement faux. Voyez-vous? Satan séduit, fait croire. Satan fait croire, par exemple, qu'on peut avoir une belle façon de fonder une famille en utilisant le don de sperme. Vous avez vu ça, que ça existe, le don de sperme? Je vais vous donner un article que j'ai vu hier à ce sujet-là, qui est assez éloquent. Et le titre de l'article, c'est « Des usines à orphelins ». Et regardez bien la conséquence. Ça paraît bien, hein? quelqu'un qui ne veut pas avoir de mari, par exemple, va avoir du sperme d'un donneur qui en donne à grande quantité. Donc, il peut avoir des centaines ou des milliers d'enfants à gauche et à droite. Et la personne va se faire inséminer du sperme et va avoir un enfant, mais elle ne sera pas bordée d'avoir un mari. Ou si c'est un couple de lesbiennes, ou enfin, tous ces scénarios-là. On veut avoir des enfants, mais on ne veut pas avoir une famille normale. Regardez ce qui s'est passé, ce qui se passe. Le titre de l'article, des usines à orphelins. Chaque année, aux États-Unis, 30 000 à 60 000 enfants naissent à la suite d'un don de sperme. Avec le nombre croissant des mariages gays et des femmes voulant des enfants, mais pas de mari, l'industrie de la reproduction fait des bénéfices énormes, c'est payant, grâce aux dons de sperme. Les donneurs de sperme ont souvent plusieurs dizaines d'enfants, voire centaines d'enfants. Et la plupart de ces enfants n'ont jamais entendu parler de leur père. Jamais entendu parler de leur père. Mais cette industrie qui produit des enfants orphelins, il produit des enfants orphelins de père, connaît aussi des problèmes. Les donneurs, les parents et le personnel médical s'inquiètent à présent des conséquences négatives potentielles de voir autant d'enfants issus des mêmes pères, avec un risque accru que des gènes propices à des maladies rares se répandent plus largement dans la population. Il y a des effets à ça. Et comme je vous ai mentionné tantôt, les petits-enfants qui naissent de ça, là, à un moment donné, ils veulent savoir c'est qui mon papa, c'est qui mon père, il est où mon père. Et il y a tout un drame émotif intérieur à la suite de ça. Ça, on n'en parle pas non plus, on ne montre pas les conséquences négatives. Dieu avait initialement prévu que tous les enfants grandissent dans des familles intactes, hein, avec un père et une mère. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils vont avoir des enfants. Une famille stable qui amène nourriture, qui amène des soins émotifs, qui amène l'aide pour grandir normalement dans un foyer. C'est comme ça que Dieu avait prévu et planifié les choses. Mais certaines personnes veulent aujourd'hui rejeter ça. Et il y a plusieurs années, Dieu avait averti dans Exode 22-22. Dieu avait averti de cette façon. « Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. » Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Ça s'applique à l'industrie du sperme ou à l'industrie des enfants sans père. Voyez-vous, parce que de nos jours, en soutenant des parents égoïstes et pervertis, l'industrie de la reproduction afflige les orphelins avant même leur naissance, parce qu'elle leur garantit qu'ils ne connaîtront jamais leur père. C'est fort. C'est des conséquences du monde dans lequel nous vivons. C'est ça. Absolument. Satan est réel. Il sème la confusion et il séduit de plusieurs façons. Deuxième moyen de vaincre Satan, connaître Dieu de plus en plus. C'est lui notre roc, c'est lui le rocher des siècles, c'est lui notre Père merveilleux, parfait. Connaître Dieu de plus en plus et lui faire entière confiance. On est capable de lui faire entière confiance seulement si on est proche de lui. Parce que si on n'est pas assez proche de lui, on n'est pas capable de s'abandonner entre ses mains. Ben non, parce qu'il faut régler les problèmes nous-mêmes, là. On n'est pas entre les mains d'un plus puissant, on est entre nos mains, il faut les régler, les problèmes. Mais si on est assez proche de lui, on lui soumet nos problèmes, on fait ce que nous avons à faire, puis on laisse le reste entre ses mains. C'est ça que Dieu veut qu'on apprenne à faire. Demandez à Dieu de le craindre profondément, de l'admirer, de le révérer, de vouloir lui plaire. C'est pas pour rien que c'est écrit à plusieurs endroits dans la Bible, comme Proverbe 1, verset 7. Proverbe 1, verset 7. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la science, ou de la connaissance, si vous voulez. La crainte de l'Éternel, c'est-à-dire le respect envers Dieu, le désir de faire sa volonté, c'est le commencement de la connaissance, de la vraie connaissance, du chemin qui mène au bonheur et du chemin qui mène à la vie éternelle. Et c'est pour ça qu'il faut prouver la Bible, prouver la parole de Dieu. On n'a pas le choix. Et si on pense que parce qu'on l'a déjà lu dans le passé ou qu'on connaît à peu près ce qui est dit et qu'on ne l'étudie pas chaque jour, qu'on va être fort, non, nous ne serons pas forts. C'est chaque jour qu'il faut réserver du temps pour faire notre étude biblique et même pour réétudier les mêmes choses après quelque temps. Nous, on le fait régulièrement, mon épouse et moi, puis à chaque fois, on redécouvre des choses. C'est le même phénomène qui se passe quand on reprend un sermon qu'on a entendu il y a quelques mois ou quelques années. On le remet, on le réentend, puis on découvre des choses nouvelles, une profondeur nouvelle. On est rendu plus loin, on a appris d'autres choses, on a vu d'autres versets dans la Bible. ça se connecte et le lien se fait. Et après ça, méditer, c'est-à-dire réfléchir à ce qu'on vient de lire, puis réfléchir à comment ça s'applique dans ma vie. Comme là, aujourd'hui, je vous parle des ruses de l'adversaire. Comment, moi, réagir devant ça? Comment ne pas réagir trop vite quand il m'arrive des idées, là, tout d'un coup, là, ou des émotions, là, que je ne sais pas d'où qui viennent, là? Bien, moi, je sais d'où qui viennent. Je commence à savoir où. Je ne l'ai pas toujours, mais plus souvent qu'autrement, à cette heure, quand je vois qu'il y a une idée ou une émotion bizarre, ou une émotion de colère, ou une émotion d'amertume, ou de regret qui m'arrive, je dis, oups, oups. Ça vient pas de Dieu. Dieu veut pas que je sois triste. Dieu veut pas que je sois amer. C'est le contraire. Donc, si ça vient pas de Dieu, ça vient de l'autre qui veut me détruire. Donc, Dieu aide-moi à rejeter cette idée-là. Voyez-vous, on apprend à le connaître. On apprend à connaître l'adversaire, mais on apprend à connaître notre Dieu. Et chaque jour, on le prie. On ne peut pas passer une journée sans prier. Si vous passez des journées sans prier, je peux vous garantir une chose. C'est que vous vous affaiblissez. Et on a vu tantôt que le rôle de Satan, c'est d'affaiblir les nations. Et le plus possible d'affaiblir la nation de Dieu. Et un de ces moyens-là, c'est de nous préoccuper avec 56 000 affaires en dehors, de nous amener à faire les choses autrement, de ne pas avoir le temps vraiment d'étudier ou de consacrer un temps de prière chaque jour à Dieu. Mais si je fais l'inverse, si je me dis, quelles que soient les occupations que j'ai, moi, je ne sortirai pas de la maison avant d'avoir prié et je vais me garder du temps aujourd'hui pour lire, pour étudier ma Bible. Vous allez voir les choses changer. Et Dieu va être avec vous. Pourquoi? Parce que vous allez être avec lui. Aussi simple que ça. Prier chaque jour à genoux et jeûner régulièrement pour demander à Dieu de nous montrer nos fautes et de nous donner la force de vaincre. Et Dieu va répondre. Je vais vous montrer quelque chose de fascinant ici. Matthieu chapitre 4. C'est le moment où le Christ a été tenté par Satan. Je vais vous montrer des choses que vous avez peut-être jamais saisies dans ce contexte-là. Alors, Matthieu 4 et le verset 1. Alors, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Verset 3. Le tentateur s'étant approché, lui dit. Alors, voyez-vous, ici, on définit Satan clairement comme étant celui qui nous tente. Il a tenté le Christ. Il va tenter et il tente les disciples de Christ. Et il va continuer à le faire jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il va s'en prendre à vous, il va s'en prendre à moi pour essayer de nous emmener à nous éloigner, à nous décourager, à voir les choses autrement, à se sentir blessé, offensé, tout ce que vous voulez. Pas comprendre ce qu'on aimerait comprendre. Il y a des choses qu'on peut comprendre, mais il y a des choses qui ne nous appartiennent pas. Il faut faire la distinction entre les deux pour ne pas se mêler. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Vous savez, Satan crée des situations. Mais oui, c'est le prince de la puissance de l'air, c'est le Dieu de ce siècle. Il crée des situations autour de vous et autour de moi. Il crée des circonstances pour que nous nous sentions parfois offensés, pour que nous nous sentions parfois même blessés par des membres de l'Église, par des gens autour, ou par des sermons qu'on trouve trop correctifs ou trop durs, ou même par un ministre. Se sentir blessé, se sentir vexé, puis garder ce sentiment-là, puis le jouer avec. Et quand Satan voit qu'on est prêt à jouer avec, il est content. Parce que là, on gratte le bobo. On gratte le bobo, puis le bobo s'agrandit. Le bobo s'agrandit. Et souvent, dans ce temps-là, les gens vont avoir tendance à en parler à l'autre, quel bobo ils ont, et comment c'est pas juste d'avoir ce bobo-là, et comment, vous savez, et là, ça se répand. Et c'est un poison qui se répand dans l'Église. Alors, Satan crée les circonstances, les situations pour que nous nous sentions offensés, blessés, pour que nous voulions nous éloigner de Dieu un peu. Ou nous éloigner de nos frères et de nos sœurs dans l'Église. Ou nous éloigner carrément de l'Église. Vous avez des désirs, à un moment donné, sexuels, qui sont contraires aux lois de Dieu. Ça vient d'où? Il y a votre nature humaine charnelle, parce qu'on vient de là, on en a encore. Mais il y a l'adversaire qui est capable de diffuser, ou qui est capable d'arranger les circonstances, pour que quelqu'un de super joli soit devant vous. Ou soit devant vous, soit à l'écran, soit dans un journal, soit où vous voulez, dans une position ou dans une situation qui vous incite à vouloir aller plus loin. C'est le chemin qui mène à la destruction, c'est-à-dire à pécher. C'est le tentateur qui crée les circonstances. Il crée les situations pour que vous soyez tentés de mentir. Si je dis juste un petit mensonge blanc, comme les gens disent, ça ne fera pas de mal à personne, puis moi, je vais pouvoir m'en sortir. Je ne dirai pas la vérité. Je ne peux pas faire ça. M. Appartient nous a expliqué comment de fois. Un mensonge, c'est un mensonge. Il n'y a pas de degré. Un mensonge, c'est un mensonge. Une vérité, c'est une vérité. Mais Satan va s'arranger pour qu'on ait le goût de faire un petit mensonge pour s'en sortir. Pas du tout. Faut pas. Il va s'arranger pour qu'il y ait des circonstances où on pourrait, par exemple, facilement voler. Mais est-ce qu'on doit le faire? Non. Même pas voler un franc ou un euro ou un dollar. Absolument pas. C'est pas la question de montant. Voler, c'est voler. Et certains vont dire dans la société, et certains d'entre nous l'avons peut-être déjà dit, quand venait le temps de faire nos rapports d'impôts, avant de connaître Dieu, certains disaient, bon, c'est pas voler que de voler le gouvernement parce qu'il nous vole. Oui, ça, c'est les raisonnements humains, là. C'est alimenté par quelqu'un d'autre. Mais une fois qu'on est dans l'Église, la Bible nous dit, respectez les autorités, comme le Christ a dit, rendez à César ce qui est à César, payez au gouvernement ce qui revient au gouvernement. D'accord, c'est peut-être lourd, c'est peut-être pesant, mais c'est comme ça. Payer au gouvernement ce qui est au gouvernement et payer à Dieu ce qui est à Dieu, ça dîme. Et ses offrandes, c'est tout ce qu'on a à faire. C'est simple, simple, simple. Il n'y a pas de jeu possible avec ça. Alors, on a tous, vous et moi, ce genre de tentation-là de temps à autre. Verset 3. Là, j'arrive à un point que je veux vous faire comprendre qui est important. Verset 3 ici. Je reviens là-dessus. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es... Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Bon, c'est la première partie de la phrase sur laquelle j'attire votre attention. « Si tu es le Fils de Dieu. » En fait, Satan voulait faire dire oui au Christ. Je vais vous expliquer pourquoi. Satan voulait faire dire oui au Christ, parce que c'est vrai qu'il était le Fils de Dieu. C'est vrai qu'il était le Fils de Dieu. Il voulait lui faire être d'accord avec son affirmation. Et c'est souvent les trucs de Satan. Il va présenter une vérité avec un mensonge, puis il va s'arranger avec tout le paquet pour qu'on dise oui au paquet, qu'on aille dans cette direction-là, voyez-vous? Qu'on commence par dire oui à quelque chose, mais là, on est embarqué dans son jeu. Si vous remarquez, le Christ, à aucun endroit ici, n'a répondu à Satan directement. Il y a une raison, c'est parce qu'il n'embarquait pas dans son jeu. Il savait que c'était l'adversaire, l'ennemi. Et il n'a pas laissé aller plus loin. Voyez-vous? C'est ce qu'il a fait ici. Parce qu'un premier oui, c'est ce qu'un vendeur essaie d'obtenir quand il va chez vous. Hein? Est-ce qu'il ne fait pas beau aujourd'hui? Oui, il fait beau. Est-ce que c'est à vous telle chose? Est-ce que vous avez une belle maison? Est-ce que c'est vous qui avez décoré ça ici? Oui, c'est mon mari et moi qu'on a fait. Alors là, il y a deux, trois oui de suite. Le cœur est disposé pour maintenant vendre le produit. Et maintenant, voici le produit miracle qui va régler tous vos problèmes. OK? Vous êtes déjà dans le cheminement de dire oui. Vous êtes d'accord, en un sens, avec la personne. Voyez-vous la psychologie derrière l'approche subtile de Satan? Mais voyez-vous la psychologie encore plus grande du Créateur de l'univers qui dit « Je te réponds même pas. Je te réponds même pas. » Et parfois, dans certaines circonstances, il faut arrêter la personne et dire « Non, je vous entends pas. Je vous entends pas parce que là, vous en allez ailleurs. Vous avez un paquet à me vendre. Vous avez un paquet d'autres arguments qu'il n'y a pas d'affaires là. Vous n'avez plus à parler ici. OK? Parce que ce que vous voulez amener en bout de ligne, ce n'est pas ce qui doit être amené ici. Tout simplement. Alors, Satan voulait lui faire dire oui. Et c'est intéressant parce que M. Meredith, dans ce message-là, raconte qu'il est arrivé quelque chose de semblable au collège Ambassadeur à Pasadena il y a plusieurs années. Et regarde bien ce qui s'est produit. Il y a un nouvel étudiant qui arrive au collège Ambassadeur. OK? Alors, il est placé avec d'autres étudiants. On avait des maisons dortoirs à l'époque sur le campus. Ça remonte à il y a plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, là. Alors, lui habitait la maison Murphy, qui était en face de la bibliothèque sur le campus à Pasadena. Et un jour, ce jeune homme-là dit à ses compagnons de dortoir, regardez bien, je vais prendre le temps de vous le dire comme il faut. Il dit à ses compagnons de dortoir, « Je sens la présence d'esprit autour de nous. » Prions ensemble. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais là-dedans? Je vais juste vous poser la question tout de suite. Pensez-y un petit peu, là. Je vais vous donner le restant de l'histoire. Le jeune homme dit, « Je sens la présence d'esprits mauvais ici. Prions ensemble. » Alors, ce qu'il a fait, Il les a amenés à dire oui. OK? Il les a amenés à aller dans le même sens que lui. Il les a amenés à être d'accord avec son affirmation. Et tout semblait bien. Et il les a amenés à s'embarquer dans sa mise en scène. C'était vrai. C'était vrai qu'il y avait des mauvais esprits. Mais il les amenait à s'embarquer dans ce bateau-là avec lui. OK? Et ces autres étudiants-là, ce qui est arrivé, c'est qu'ils l'ont suivi. Ils ont laissé ce jeune homme-là les guider, les diriger, alors que ce n'était même pas un ministre de l'Église, là. Vous savez? Il y a des choses à faire, il y a des choses à respecter aussi. Il y a un gouvernement dans l'Église de Dieu. Ils ont suivi ce jeune homme-là qui n'était pas un ministre, qui n'était même pas converti, même s'il avait l'air converti, même s'il parlait beaucoup de Dieu. Et parfois, il y a des gens qui sont venus au collège dans le passé, qui sont venus à l'Église dans le passé, qui parlaient beaucoup, beaucoup, beaucoup de Dieu. Mais qui parlaient de Dieu poussés par un autre esprit. Ce n'est pas toujours évident, mais c'est des choses qui se passent. Il avait l'air converti, et les gens pensaient qu'il l'était vraiment. Et effectivement, ce jeune homme-là, malheureusement, sans le savoir sans doute, avait amené avec lui des esprits mauvais. Alors le collège a dû l'exclure, et l'Église a dû l'exclure aussi. Et tous les jeunes hommes qui étaient avec lui à ce moment-là, qui se sont agenouillés avec lui à sa demande, qui ont dit oui, qui ont suivi ses présentations, ont quitté l'Église. Ne sont pas restés, sauf un. M. Meredith, il dit, il y a seulement un qui est resté dans l'Église. Il avait dit, « Je sens la présence des esprits, mettons-nous à genoux et prions. » Alors, il avait reçu un oui comme réponse à quelque chose qui était vrai, qui s'est avéré par la suite même. Il y avait des esprits mauvais, mais il travaillait avec. OK? Ça, c'est une autre affaire. Il y avait des esprits qui étaient là. Mais ce n'était pas la façon de faire. Il les a amenés, dans le fond, à se joindre à sa mise en scène. Verset 3, on revient au verset 3. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Avez-vous remarqué, Jésus-Christ n'a pas répondu, « Oui, je suis le fils de Dieu. » Là, il aura embarqué dans le même ensemble de raisonnement que l'autre. Il aurait été, autrement dit, dans son chemin. Il aurait été sur sa patinoire, dans son jeu. OK? Comprenez-vous? Tout en étant vrai, il aurait dit vrai s'il avait dit « Oui, je suis le Fils de Dieu. » OK? Mais, dans le fond, quand vous regardez sa réponse, il dit « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Dans le fond, ça voulait dire « Je ne te suivrai en rien. Je n'irai pas du tout dans cette direction. Je ne veux en rien être en accord avec toi. » Je ne veux en rien être en accord avec toi. Voyez-vous, c'est important, cela. Ça semble être une nuance fine, mais elle est profonde. Rappelez-vous, Jean 14, verset 30, vous irez voir. Jean 14, verset 30, à un moment donné, quand Judas approchait pour trahir le Christ a dit à ses disciples, « Levons-nous, partons d'ici. Le prince du monde vient et il n'a rien en moi. » Oui, il n'y avait absolument rien avec Satan, l'adversaire et le Christ. Il n'y avait absolument rien. Vous irez voir Jean 14 et le verset 13. Dans le fond, dans sa réponse, le Christ a dit, « Je n'ai rien de commun avec toi, je compte seulement sur Dieu, seulement sur sa force et sur la vérité. » Et quand vous regardez le reste du chapitre, c'est le même principe qui s'applique. Le Christ accepte aucune affirmation de Satan parce que c'était un piège. Quand Satan lui a dit « Jette-toi en bas du temple et je vais te donner telle chose », il lui a montré les royaumes, il a dit « Je vais te les donner ». Le Christ n'a pas dit « Oui, je sais que les royaumes sont à toi, bien oui, c'est le Dieu de ce siècle ». Il n'a pas, du tout embarqué dans ce genre de raisonnement-là. Tout de suite, il a tracé la ligne, il dit « Je ne veux rien avoir à faire avec toi » et il lui a répondu en citant la Bible, en citant la parole. L'épée. Jésus lui dit, verset 10, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul ». Alors, Satan utilise les Écritures. Satan est capable de parler de la Bible probablement beaucoup mieux que vous et moi. Mais nous, on a un atout extraordinaire, la puissance de Dieu. Et Dieu qui protège ceux qui demandent sa protection et ceux qui cherchent à faire sa volonté. Troisièmement, nous devons combattre contre un esprit plein d'amertume. Et ça, c'est pas secondaire, cet élément-là. Nous devons combattre un esprit plein d'amertume. On est dans un combat réel, constant. Et si on va à Éphésiens chapitre 6, on peut aller en passant à Éphésiens chapitre 6, versets 10 et 11. « Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par la force toute-puissante de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Et c'est ça que je vous décris depuis le début de mon sermon. Que vous soyez conscient des ruses du diable, que vous soyez capable d'être sur vos gardes et de demander à Dieu de vous protéger, de vous aider à voir quand c'est Satan qui essaie de vous amener dans des situations qui ne sont pas correctes. Par exemple, Satan va essayer de vous faire être irrité contre le monde autour, contre la société. Ne soyez pas irrité. On peut s'indigner de ce qui se passe, de ce qui se fait. On est malheureux de ce qui se fait. Et on dit à Dieu que ton règne vienne. Mais on ne doit pas haïr les gens. On ne doit pas s'irriter contre les dirigeants du monde, même si des fois leurs décisions sont mauvaises et tout ça. On ne doit pas, nous, avoir de la rancœur dans le cœur et les détester. Non, Dieu aime les êtres humains, mais il déteste le péché. Dieu aime les pécheurs, mais il déteste les péchés. Et nous, on doit faire pareil. Dieu, il les aime, les pécheurs. Alors, on ne peut pas mettre des catégories sur les gens selon les péchés qu'ils font, absolument pas. On sait qu'ils font mal. Et c'est malheureux. Et on demande à Dieu que son règne vienne. Satan sait très bien comment vous atteindre et comment m'atteindre. Il sait très bien comment vous toucher et me toucher. Il connaît vos points faibles, les miens, et il les utilise. Mais n'allez pas dans sa direction, aucunement. N'allez aucunement dans sa direction. Parce que si vous embarquez dans ce stratagème, c'est le chemin qui mène à s'éloigner de Dieu, à douter de Dieu, comme il a fait avec Adam et Ève, et comme il a fait avec d'autres après ça dans le temps. Quand Satan peut semer des doutes sur un, sur l'autre, sur le gouvernement de Dieu, sur qui vous voulez. Et vous pourrez lire vous-même Éphésiens 6, versets 10, 12, 13, 14, et vous allez voir que les démons essaient de nous influencer de plusieurs façons. On a une guerre à mener, mais on doit être fort avec Dieu et prendre la parole de la vérité comme épée, si vous voulez. Et on doit lutter contre nos pulsions. On a des pulsions, on a des désirs, on doit lutter contre les désirs qui sont mauvais et contre les pulsions qui débordent. Boire, manger, la sexualité, tous ces besoins physiques. Mais écoutez, c'est Dieu qui les a faits. C'est pas mauvais. C'est l'usage qu'on en fait qui est mauvais. C'est l'usage qu'on en fait. Dieu veut qu'on l'utilise, mais de bonne façon. Dieu veut qu'on se réjouisse, par exemple, dans la sexualité. Oui, il l'a fait, c'est beau, c'est bon, c'est formidable. Mais dans le mariage, où il n'y a pas de conséquences négatives et où on peut prendre soin des tout-petits qui en naissent par la suite. Ça, c'est dans le plan de Dieu et c'est une bénédiction. M. Armstrong disait souvent que le péché, c'est pas une chose. Ou c'est pas une personne, c'est pas un homme, c'est pas une femme. C'est pas l'alcool, c'est pas une arme. C'est pas ça le péché. Le péché, c'est comment on l'utilise. Je peux utiliser une arme pour aller à la chasse. Il n'y a pas de problème avec ça. Je peux utiliser un peu de vin en mangeant à l'occasion, tout ça, il n'y a pas de mal à ça. Mais si je m'enivre, là, je transgresse la loi. Donc, c'est l'utilisation que j'en fais. Et M. Armstrong décrivait ça de belle façon, je trouve, lorsqu'il parlait de ça. Alors, vous pourrez lire le reste du chapitre 6 d'Éphésiens. Ça touche vraiment le fait qu'on doit nous protéger avec le bouclier de la foi, qu'on doit avoir la vision, qu'on doit avoir dans nos cœurs, dans nos esprits, connaître la parole de Dieu, l'avoir éprouvée. Vous savez, on est dans une bataille contre Satan et contre l'amertume de Satan, parce que Satan est vraiment imbu d'amertume. Et M. Meredith explique dans son message que lui-même a été fortement tenté par l'amertume, parce qu'il a été traité injustement à plus qu'une reprise. Il a même déjà été envoyé ailleurs, dans un autre pays, obligé de déménager avec des jeunes enfants, parce que quelqu'un d'autre commettaient des fautes que lui connaissait et qui risquaient d'être mis à jour. Ils se sont arrangés pour l'envoyer ailleurs. Et c'est lui qui en a payé le prix. Il savait. Il n'est pas parti en accusation et en tout ça. Il s'en est remis à Dieu. Mais il dit pendant quelques heures et même quelques jours, j'ai été vraiment tenté par l'amertume. J'ai été obligé de jeûner. J'ai été obligé de demander à Dieu de m'enlever le danger d'amertume. Puis il dit après ça, j'ai tout mis ça dans ses mains. J'ai laissé aller les choses. Les gens qui faisaient ces choses-là, qui n'étaient pas correctes au quartier général, ne sont plus là. Ne sont plus là. M. Meredith est encore là, après toutes ces années. Plus de 60 ans dans l'œuvre. Et M. Bénédicte dit, j'ai été testé sur ça pendant des heures et même des jours, et avec l'aide de Dieu, je ne me suis pas laissé aller. Il dit, sinon, je ne serais pas ici aujourd'hui pour vous parler. Aussi simple que ça. Si j'avais embarqué dans la voiture de l'amertume, toutes les chances étaient que je ne me retrouverais pas aujourd'hui avec vous. Alors, ne vous laissez pas être offensé par rien. Il faut voir le plan d'ensemble. Ce qu'un individu nous fait ou une chose qu'on n'a pas comprise ou quoi que ce soit, laissez-vous pas détourner par une offense comme ça ou par une incompréhension ou par le fait d'avoir été mal jugé ou même accusé ou même rejeté ou même traité injustement, comme M. Meredith l'a été à différentes occasions. Ne vous laissez pas avoir par ça. Comparez ça, M. Meredith explique dans son message. Il dit, écoutez, comparez ces légères afflictions, comme la Bible parle, aux souffrances que le monde endure dans le monde actuellement. Voyez les gens en Syrie qui se font torturer, massacrer. J'ai vu l'autre jour un petit enfant pris dans un agrégat de ciment. L'édifice était tombé. Il était encore vivant. On essayait de le sortir. Voyez toutes ces jeunes filles et ces femmes qui sont violées en Afrique, qui sont des servantes esclaves, des soldats horribles, tout ce qu'ils font. Voyez ces choses-là. Est-ce que c'est pas plus important, M. Meredith dit, que vos petites sensibilités à ce que quelqu'un aurait dit de vous ou à ce qu'un petit malentendu serait survenu dans l'Église? Voyez le grand plan d'ensemble. Voyez le but de votre appel, pourquoi vous êtes là, pour délivrer ce monde qui souffre. Alors, vos petites souffrances personnelles, mettez-les de côté, mettez-les dans les mains de Dieu. N'essayez pas de régler les choses vous-même et de régler les choses de votre voisin. Vous marchez avec Dieu et voyez le grand plan d'ensemble, là où ces choses mènent, la délivrance de l'humanité. M. Armstrong avait dit, une racine d'amertume, c'est comme une dépendance à l'héroïne. Je pense que son exemple est bon. Il dit, une racine d'amertume, c'est comme une dépendance à l'héroïne. C'est extrêmement difficile d'en sortir et de s'en débarrasser. Quand une personne est prise dans ce piège, elle devient de plus en plus fâchée, elle devient de plus en plus irritée, elle raisonne de moins en moins logiquement, et elle en vient à ne plus pouvoir comprendre. Et elle en vient plus loin que ça, à ne plus vouloir comprendre. Et à ce moment-là, c'est un chemin extrêmement dangereux. C'est le chemin de la rébellion, du durcissement, et dans ce cas-là, c'est de plus en plus difficile de revenir à Dieu. Et si quelqu'un dans l'Église est pris là-dedans, Satan veut garder la personne là-dedans parce qu'il sait que c'est sa chance de la détruire. L'amertume mobilise tout votre être, vos pensées, vos émotions, votre cœur, votre esprit. C'est puissant, c'est envahissant et ça perturbe. Dernière indication, dernier moyen, recherchez l'humilité. Recherchez l'humilité. C'est ce qui compte. Imaginons-nous pas que nous sommes bons, que nous avons du succès, même si nous en avons eu, ou parce qu'on possède certaines choses, qu'on est plus que d'autres, absolument pas. Ne soyons pas fiers de nous-mêmes, ni entêtés. Au contraire, la Bible nous dit, soyez comme de petits enfants. Vous savez, l'orgueil, ça nous empêche de nous soumettre totalement à Dieu. Plus il reste d'orgueil dans moi, moins je me soumets à Dieu. Plus j'élimine mon orgueil et que je deviens avec un cœur d'enfant, plus je suis soumis à Dieu et plus Dieu peut travailler avec moi. C'est comme ça. Il dit « Devenez », le Christ a dit « Devenez comme ses petits-enfants ». Alors écoutez, marchez avec Dieu, craignez-le, servez-le, poursuivez votre route. Si on est proche de Dieu, il va être proche de nous et il va prendre soin de nous. À nous d'utiliser tous les moyens pour vaincre Satan par la puissance suprême de notre Papa, Dieu qui nous aime.